الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
donc Cheikh Hafidahullah débute en faisant les louanges à Allah Jalla wa Ala et en attestant de l'unicité d'Allah et de la prophétie et du message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il loue également le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un sujet qui est lié, qui est les règles qui concernent les nouveau-nés. Comme chacun d'entre nous, donc qui veut se marier et avoir une descendance pieuse, et on demande à Allah jalla wa ala qu'il nous accorde une descendance pieuse, le fait d'avoir cette descendance également a des règles qui sont liées.
الأمر الأول وهذا قبله الزواج هو متعلق باختيار الزوجة واختيار الزوج، وتكلمنا عن ذلك في المحاضرة السابقة. ينبغي أن يحرص الزوج على الزوجة الصالحة، وكذلك تحرص الزوجة على الموافقة من الزوج الصالح. هذه أحكام متعلقة بالذرية بالمولود. نعم.
Tout d'abord, parmi les règles qui concernent le nouveau-né, il y a des règles qui sont établies bien avant le mariage, bien même avant que la personne se marie. Et comme on a vu précédemment, ça commence par le choix de l'époux et le choix de l'épouse. Donc chacun d'entre nous doit prendre soin de choisir l'époux et l'épouse qui correspond et qui a la meilleure religiosité et le meilleur comportement.
من الأحكام المتعلقة بالمولود تحصين المولود قبل مجيئه من ضرر الشيطان، تحصين المولود قبل مجيئه من ضرر الشيطان. نعم.
Parmi les règles qui concernent les nouveau-nés, il y a premièrement le fait de protéger ce nouveau-né contre Shaitan, avant même sa venue, avant même sa naissance, le fait de protéger ce nouveau-né contre toutes les nuisances de Shaitan.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما أو فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا.
D'après un hadith d'Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si lorsque l'un d'entre vous va pour avoir des rapports intimes, et qu'il prononce cette invocation, Bismillah, au nom d'Allah, ô Allah, je te demande de nous éloigner al-Shaytan. Allah, éloigne de nous al-Shaytan. Et ô Allah, éloigne le Shaytan de ce que tu nous auras donné comme enfant. Éloigne le Shaytan de ce que tu nous auras donné comme enfant et comme subsistance. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prononce cette invocation avant d'avoir des rapports, si Allah a décrété qu'un enfant était issu de ce rapport, alors un shaytan ne pourrait le nuire aucunement.
Et l'on yahrus al-zawj idha arada an yaqdiya shahwatahu min zawjatihi an yaqula hadha al-dhikr bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana yahfazuhu az-zawj kadhalika az-zawja as-salihah tudhakkiru zawjaha hal qara'ta adh-dhikr هل قلت ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أمر لا بد أن يحرص عليه الزوج حتى يبعد الشيطان عن ذريته. نعم.
Donc il faut absolument prendre soin pour les époux de prononcer cette invocation avant d'avoir des rapports. Et la femme, donc l'épouse, se doit de rappeler son époux de prononcer cette invocation auquel cas il aurait oublié.
كذلك من الأحكام المتعلقة بالمولود وهذا بعد مجيئه وهو حمد الله عز وجل عند الولادة إذا كان المولود سويا ولا يبالي إذا كان ذكرا أو أنثى. إذا خرج المولود سوياً بخلقة طيبة تحمد الله عز وجل ولا تبالي سواء كان ذكراً أو كان أنثى.
Et parmi les règles du nouveau-né qui viennent après la naissance, il y a le fait de louer Allah Jalla wa Ala, de louer Allah et de remercier pour avoir donné cet enfant lorsqu'il est complet, indemne et en bonne santé. Et de ne pas se soucier est-ce que c'est un garçon ou une fille, mais simplement de louer Allah Jalla wa Ala de nous avoir octroyé cette subsistance qui est un enfant indemne et en bonne santé.
كانت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إذا ولد في أهلها مولود يعني في أقاربها ولد مولود كانت لا تسأل أول سؤال لا تسأل غلاما ولا جارية فلانة ولدت لا تسأل ولدت ذكرا أو ولدت أنثى كانت تقول خلق سويا يعني طيب ما هو مريض ما فيه عيب شيء معين كانت تسأل هذا السؤال رضي الله تعالى عنها فإذا قيل نعم يعني خلق سويا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها الحمد لله رب العالمين الحديث في الأدب المفرد وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إذن أول ما يأتي المولود لا تسأل ذكرا أو أنثى خلق سويا قيل نعم بصحة طيبة وللحمد لله رب العالمين نعم
Notre mère Aïcha رضي الله عنها lorsque un enfant naissait dans sa famille elle ne se souciait pas est-ce que c'était un garçon ou une fille la première chose qu'elle demandait رضي الله عنها elle demandait est-il en bonne santé Est-ce qu'il est né complet et indemne, en bonne santé ? Et lorsqu'il disait oui, elle disait « Alhamdulillahi Rabbil Alameen, louange à Allah, le Seigneur des mondes. » Donc Aïcha ne se souciait aucunement de savoir est-ce que c'était un garçon ou une fille. La chose qui l'a préoccupé, c'était de savoir est-ce qu'il était indemne et en bonne santé.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il y a encore deux voitures qui gênent dans la rue Mons. Il y a un petit parking. Il y a des gens qui n'ont pas compris qu'il y avait une entrée et une sortie apparemment. Barakallahoukoum, bougez vos voitures des entrées et sorties du parking. Là, il y a un berlingot noir et il y a une autre Clio qui bloque aussi, toujours dans la même rue. La rue ici à droite. On ne va pas prendre à chaque fois 5 minutes pour couper le cours pour dire aux gens de faire preuve de civilité. C'est quelque chose qui doit être normal. Les garages et les entrées et sorties de parking, l'Ikhwa, barakallahoukoum, de ne pas les obstruer, de ne pas les boucher.
طيب. من الأحكام المتعلقة بالمولود أيضا وخاصة عند ولادته التأذين في أذن المولود يقول أبو رافع رضي الله تعالى عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة رضي الله تعالى عنها بالصلاة وفي لفظ آخر للحديث أذن في أذن الحسن والحسين حين ولدا وأمر به صلى الله عليه وسلم هذا حسنه الشيخ الألباني إذن الأذان في أذن المولود نفس أذان الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الأذان كاملا في أذن المولود نعم
Et parmi les règles qui concernent le nouveau-né, il y a le fait de prononcer et de réciter Al-Adhan dans l'oreille du nouveau-né. Et ceci a été rapporté authentiquement dans un hadith que Cheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi a authentifié, qui est rapporté par Abu Rafi' radiyallahu anhu. Il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire l'adhan, donc réciter l'appel à la prière dans les oreilles de l'Hassan, lorsque Fatima radiyallahu anha l'a enfanté. Et dans une version de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'adhan dans l'oreille de l'Hassan et l'Hussein et il a ordonné de le faire. Donc cela a été rapporté authentiquement de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam de réciter l'adhan complètement dans l'oreille du nouveau-né.
أما ما ورد في الإقامة إقامة الصلاة في الأذن اليسرى فهذا لم يثبت إذن فقط الأذان في أذن المولود، أما الإقامة فلا يصح فيها شيء. نعم.
الأذان شخنا يكون في الأذن الأيمن
سواء ما ورد لا اليمنى ولا، ولكن الأولى في الأمور الطيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن. نعم.
Donc l'adhan, Cheikh nous dit, hafidahullah, peu importe qu'il soit fait dans l'oreille droite ou dans l'oreille gauche, mais bien sûr, toutes les bonnes choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite et aimait faire les bonnes choses dans la partie droite. Quant au fait de faire l'iqama dans l'oreille gauche, cela n'a pas été rapporté ou du moins c'est faible.
كذلك من الأحكام المتعلقة بالمولود وهو دعاء الوالد لولده إذا ولد بالبركة. كثير من الناس لا يدعو بالبركة، فلا بد للوالد أن يدعو لولده بالبركة. نعم.
Et parmi donc les règles du nouveau-né, il y a le fait pour les parents de d'invoquer Allah Jalla wa Ala, d'invoquer la bénédiction d'Allah Jalla wa Ala pour le nouveau-né.
يقول معاوية بن قرة وهو من التابعين رحمه الله تعالى، معاوية ابن قرة من التابعين، يقول لما ولد لي إياس، له ولد اسمه إياس، وهذا إياس يعني الله عز وجل طرح فيه البركة، يقول دعوت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تابعي رأى الصحابة، فدعا نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له إياس فأطعمهم طعاما، فدعا الصحابة الآن دعوا بالبركة، دعوا بالخيرية لهذا الولد. فقلت، يقول معاوية، فقلت لهم إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم، وإني أدعو بدعاء فأمنوا. الآن الوالد يدعو للولد ليس فقط الآخرين. قال فدعوت له بدعاء كثير في دينه وعقله وكذا، قال فإني لأتعرف فيه دعاء يومئذ، قال اللهم بارك له في جسده، اللهم بارك له في بدنه، اللهم بارك له في عقله، اللهم بارك له في كذا، اللهم أحيه مؤمنا، كان يدعو له بالبركة. قال فإني أتذكر تلك الدعوة فالله عز وجل قد استجاب لي، وهذا أمام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يؤمنون على دعاء معاوية. من بركة هذا الدعاء إياس ابن معاوية ابن قرة كان من قضاة أهل البصرة، بارك الله عز وجل في هذا الولد. نعم.
Parmi donc les règles du nouveau-né, nous avons donc le fait pour les parents d'invoquer Allah Jalla wa Ala, la baraka, donc la bénédiction pour son enfant. Il y a un tabi'i qui s'appelle Mu'awiyah ibn Qurrah, qui rapporte qu'il était, lorsque son enfant Iyas est né, lorsque son enfant Iyas est venu au monde, il a invité un groupe de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il les a invités chez lui à manger. Et ensuite les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont invoqué Allah jalla wa ala pour Iyas, pour ce nouveau-né. Ils ont invoqué Allah jalla wa ala en lui implorant la bénédiction pour Iyas, qui est ce nouveau-né. Et Muawiya, donc le père de cet enfant, At-Tabi'i, il a dit, vous avez invoqué Allah Azza wa Jal pour mon enfant et avez invoqué la bénédiction d'Allah Jalla wa Ala pour mon enfant. Je demande à Allah Jalla wa Ala qu'il mette la bénédiction dans vos invocations pour mon enfant Iyas. Mais cette fois-ci, je vais invoquer Allah Jalla wa Ala à mon tour pour mon enfant Iyas. Alors dites Amin. Dites Amin, dites oh Allah, accepte les invocations de Muawiyah. Et il a dit j'ai invoqué longuement de Allah Jalla wa Ala qu'il mette la bénédiction dans mon enfant, que ce soit dans son corps, que ce soit dans sa religion, que ce soit dans sa raison, que ce soit dans tout le bien qu'il puisse avoir. Et il a dit rahimahullah, plus tard il a dit aujourd'hui je vois l'impact et le résultat de mes invocations sur mon fils Iyas. Je vois qu'Allah Jalla wa Ala a exaucé nos invocations et mes invocations envers mon fils Iyas. Et Hada Iyas ibn Muawiyah, qui était un tabi'i aussi, Cheikh Moudi, hafidahullah, il faisait partie des grands juges de Al-Basra.
من الأحكام المتعلقة بالمولود كذلك هو تحنيك المولود والتحنيك باختصار كما يقول أهل العلم هو مضغ تمرة ونحوها التمر تعرفونه مضغ التمرة ونحو التمرة سيأتي الكلام على غير التمر يمضغها الإنسان بفمه ثم وضع شيء من هذه التمرة على طرف الإصبع ثم إدخال الإصبع في فم المولود حتى يتطعم هذه التمرة داخل الفم لا ويحركها داخل فمه ويعطي تمرة كاملة ما يتوى مولود يغص فيها يموت مباشرة واحد يكون هذا نعم يكون فلذلك بعضهم تمرة يأكل كبير ما يأكل تمرة ولذلك يأخذ يمضغ التمرة يخرج التمرة يأخذ قطعة يجعلها على طرف إصبعه ثم هذا الطرف حلاوة التمرة أو يضع يموت بعد ذلك يقول الشيخ منصور الخالدي قال لي ذلك ثم بعد ذلك يقبضون عليه لا ما ينفع فلذلك شيء قليل يضعه داخل فم الطفل ويتحسس طعم هذه التمرة هذا هو التحريك تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان الصبيان إذا ولدوا يذهبون بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم
Et donc, parmi les règles que nous avons envers le nouveau-né, il y a ce qu'on appelle en arabe التحنيك. التحنيك, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de mâcher, donc pour le parent, le fait de mâcher une date ou autre, comme on va le voir plus tard. Donc de prendre une date et de la mâcher. Donc les parents mâchent la date et on extrait ensuite un petit bout, donc une petite quantité de cette date et le met sur le bout de son doigt. Et ensuite, on vient mettre son doigt dans la bouche de l'enfant en frottant, yani comme si on frottait les gencives ou le palais malice de l'enfant, afin que l'enfant ait cette douceur, yani la douceur de cette date. Et bien sûr, Cheikh nous dit, Hafidahullah, on ne doit pas mettre une grande quantité. L'enfant, ça, il vient de naître. Donc, une petite quantité suffit pour ne pas nuire à l'enfant. Et Aisha radiallahu anha rapporte qu'on amenait au prophète sallallahu alayhi wa sallam les nouveau-nés. Et le prophète alayhi salatu wa sallam invoquait pour ses enfants al-baraka, donc la bénédiction d'Allah jalla wa ala, et pratiquait sur ses enfants al-tahnik. Donc, ce qu'on vient d'expliquer.
المسألة المتعلقة بالتحنيك متى يكون التحنيك وهل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم
ici se pose une question quand dois-je faire التحنيك et une autre question qui est-ce que le تحنيك est une pratique qui est spécifique uniquement pour le prophète صلى الله عليه وسلم
التحنيك يكون حين ولادة المولود وأول ما يطعمه بفمه يكون هذا الشيء اليسير من طعم التمر أول شيء يطعمه المولود نعم
Quant au moment du تحنيك Cheikh nous dit حفظه الله il doit se faire au tout début de la naissance de l'enfant de sorte à ce que la première chose que l'enfant goûte une fois venu dans ce bas-monde soit la partie, yani le bout de date mâché. Donc, tout de suite après que l'enfant soit né, avant même qu'il le tète ou autre, yani la première chose qu'il doit rentrer dans sa bouche, c'est le tahnik. Donc, ça, c'est le moment du tahnik.
وهل التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم في ذلك قال بعض أهل العلم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل بعده وبعض أهل العلم وهو الأقرب والعلم عند الله عز وجل قالوا هو ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيحنك الولد أمه أبوه لا بأس في ذلك ولكن هناك نقطة لا بد أن ننبه عليها لا يذهب إلى الصالحين فيما نعتقد حتى يحنكوهم لطلب البركة. فأي إنسان يستطيع أن يحنك الولد؟ وأولى الناس بالتحنيك الأب أو الأم. نعم.
Ici, donc, se pose la deuxième question. Est-ce que le tahnik est une pratique qui est réservée spécifiquement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc les savants ont divergé à ce sujet. Une partie des savants voit que c'est une pratique qui est spécifique pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dès lors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, alors il n'est plus possible pour quiconque de faire cette pratique. Le deuxième avis, Cheikh nous dit, hafidhahullah, et c'est l'avis qui est le plus proche de la vérité, inshallah, c'est le fait que cette pratique n'est pas spécifique uniquement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc toute personne, après le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, peut pratiquer le tahnik sur le nouveau-né. Et les personnes les plus en droit de faire le tahnik sont les parents. Sont les parents qui sont donc le père ou la mère de l'enfant. Et ici, il y a un point très important que Cheikh Hafidhahullah a soulevé. Il est formellement interdit d'aller voir une personne tierce, d'aller spécifier une personne en particulier pour faire le tahnik pour son enfant. C'est le père ou la mère qui fait le tahnik, mais on ne va pas aller appeler une personne en croyant que cette personne est une personne bénie ou autre pour aller venir faire le tahnik pour son enfant. Les plus à même sont donc sont les parents.
الأصل في التحريك أن يكون في التمر وبالتمر، ولكن إن لم يتيسر ذلك فقال أهل العلم يحنكه بالعسل أو بأي شيء حلو. فإذا لم يوجد تمر في هذا المكان وقد ولد لك ولد، فإذا وجد عسل، إن وجد أي شيء حلو فلك أن تحنكه بهذا الطعام الحلو. نعم.
Donc la base, c'est que cette pratique et cette technique se fasse avec des dattes. Et donc ça, c'est le mieux à faire, et c'est la base. Mais si on ne trouve pas de dattes, il est permis alors de le faire avec du miel ou toute autre chose qui est semblable, yani toute autre chose qui est sucrée, comme le miel, les dattes et autres parmi les aliments qui sont sucrés.
من الأحكام المتعلقة بالمولود أن الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا يدعون نسبا إلى آبائهم، فتقول فلان ابن فلان، فلانة بنت فلان. قال الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فالنسبة ينسب إلى الآباء، منصور ابن ناصر الخالدي، فلان ابن فلان ابن فلان، فالنسبة تكون للآباء. نعم.
Et donc parmi les règles relatives au nouveau-né, il y a le fait que l'affiliation en islam se fait à travers le père. L'affiliation en islam se fait à travers le père. Allah Jalla wa'ala a dit dans ce qui a pour sens rapproché, ud'uhum li aba'ihim, affiliez-les ces enfants, affiliez-les à leur père, affiliez-les à leur père, hum aqsatu 'indallah. Donc c'est le fait d'affilier les enfants à son père, c'est plus juste auprès d'Allah Azza wa Jalla. Donc chaque enfant est affilié à son père. Si l'enfant s'appelle Mohammed et son père s'appelle Mathalan Amr, il s'appellera Mohammed ibn Amr, le Mohammed fils de Amr.
هناك مسائل متعلقة بتسمية المولود.
Donc nous avons des règles maintenant qui sont spécifiques au nom que l'on donne à cet enfant.
من هذه المسائل المتعلقة بتسمية المولود، تسمية المولود الأصل أن الحق فيها للأب، إذا تنازع الأب مع الأم أيهما يقدم؟ يقدم الأب. ولكن نحن لا ندعو إلى هذا النزاع، نقول توافقا فيما بينكما، ولكن لو حصل نزاع أيهما أولى، الأب أحق بالتسمية. عندنا الآن يعني كما يقال توافق في دول الخليج أو في الكويت، يتفقان قبل المولود إذا كان ذكرا للأب، وإذا كان أنثى للأم. وإذا كانت المرأة شديدة قالت والله لي الذكر والأنثى ليس لك حق، ولكن نحن نقول لو حصل نزاع هذا هو الحق، ولكن لا ندعو إلى النزاع، دائما ندعو إلى التوافق. بعضهم يعملون قرعة، أنا أريد عمر وهي تريد محمد، أنا أريد على اسم أبي وهي تريد على اسم أبيها. ماذا نفعل؟ أن حصل نزاع وقد يبلغ إلى الطلاق، لا تشدد وتقول الآن ماذا الحق لي أطلق. نعم الحق لك، ولكن تنازل عن حقك. كذلك أنا أقول حتى للنساء، تنازلنا عن حقك، لأن المسألة قد تكون يسيرة جدا. اعملوا قرعة أيهما يغلب. تعرفون هذه ماذا تسمونها بالفرنسية؟ حجر ورق مقص، تعرفون؟
نعم.
ماذا تسمونها؟ ها؟
شيفومي.
طيب يلا أنا ما وياك، اعمل يلا. معك اعمل يلا. شيق. الحمد لله. اعملها هكذا سريعا وتغلب الطرف الآخر. طيب الله يحفظك. زين. Donc parlez-vous au Canada.
Parmi donc les règles qui sont liées au nouveau-né, dans ce qui concerne la nomination, donc dans ce qui concerne le fait de donner un nom à cet enfant, ici on a une règle dans l'islam, c'est que la base dans la nomination de l'enfant, elle revient au père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si demain le père et la mère ont entre guillemets une sorte de conflit entre eux pour choisir le nom de l'enfant, si on revient à l'islam, on va dire c'est le père qui a le droit. Mais bien sûr, nous, comme Cheikh a dit, on n'appelle pas au conflit, on appelle plutôt aux deux parents de trouver un accord commun et de trouver un terrain d'entente pour trouver le nom de l'enfant. Et alhamdoulilah, Cheikh nous dit il y a plein de manières de faire. Déjà, la première, c'est pour le mari de se rabaisser entre guillemets, ou de de donner le droit à sa femme de choisir le nom. Il y a de se rabaisser. Et vaut mieux se rabaisser que d'entrer dans des conflits. La deuxième chose, c'est que Cheikh nous dit, par exemple, comme dans certains pays, il est connu que si c'est un garçon, c'est le père qui donne le nom, et si c'est une fille, c'est la mère qui donne le nom, même si certains disent que c'est la mère qui donne le nom tout le temps. Et Cheikh nous dit, Hafidhahullah, que même si... Donc tout ça, bien sûr, c'est pour éviter les conflits. Pour éviter le conflit, il n'y a même pas de mal à en venir à, par exemple, quelque chose comme pierre, feuille, ciseaux ou autre.
كذلك من المسائل المتعلقة بتسمية المولود أنه يجوز أن يسمي المولود غير الأب والأم، طرف آخر غير الأب وغير الأم. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه. إذن التسمية من غير الأب والأم جائزة، لا بأس في ذلك. نعم.
Et parmi les choses à savoir également, il y a le fait que de donner un nom n'est pas spécifique pour les deux parents. Un autre, donc une personne tierce, peut tout à fait donner un nom à cet enfant. Et Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, a dit lui-même, j'ai eu un enfant. Allah Jalla wa'ala m'a octroyé un enfant. Et je suis allé avec cet enfant voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a nommé Ibrahim. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a nommé Ibrahim. Et il lui a fait une technique et a demandé à Allah Jalla wa'ala la bénédiction pour cet enfant. Et ensuite il me l'a rendu.
Aïdan takallam ahlu al-ilm fi waqt التسمية المستحب، وإن كان الأمر فيه واسع من ناحية الجواز، ولكن أفضل وقت واستحباب وقت التسمية، الأقوال أو أشهر الأقوال في ذلك ثلاثة، وكلها يعني أقوال قوية لا بأس بالأخذ بواحد فيها، كل له دليله. القول الأول أن استحباب التسمية يكون في يوم ولادته، لحديث أبي موسى قبل قليل قرأناه عليكم، قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم، يعني في نفس اليوم أتيت به سماه النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم. هذا دليل من قال أنه يسمى في يوم الولادة. نعم.
Et donc parmi les règles également dont les savants ont parlé, il y a le moment. quel est le moment dans lequel je vais nommer mon enfant, je vais lui donner un nom. Les savants ont divergé, même si Cheikh nous dit de manière générale, ici, c'est quelque chose qui est vaste. Yani, ici, on va parler de quelque chose qui est large et qui est vaste. On n'a pas besoin d'être dur dans cette question. Et on va parler ici de, du meilleur moment. Voilà, du meilleur moment dans lequel il est permis. Mais si quelqu'un le nomme à un autre moment, il n'y a pas de mal. Et Cheikh nous dit les paroles des savants qui sont les plus connues concernant ce sujet. Il y a trois paroles. Il y a trois paroles qui sont tous fortes et qui se valent tous et qu'il n'y a pas de mal à en choisir une. La première, c'est de dire qu'on nomme l'enfant le jour de sa naissance. Et comme on a vu dans le hadith précédent, Abu Musa al-Ash'ari a apporté cet enfant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a nommé Ibrahim au jour même de sa naissance.
من أهل العلم من قال السنة في التسمية يكون في اليوم الثالث روي ذلك عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أنه يسمى لثلاثة يعني يسمى المولود لليوم الثالث هذا روي عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه نعم.
Le deuxième avis que les savants ont cité, c'est qu'il est préférable et qu'il est mieux de le nommer le troisième jour. Et ça, ça a été rapporté par Anas radiallahu anhu que il était préférable de nommer l'enfant le troisième jour.
كذلك هو القول الثالث بعض أهل العلم وجمع من أهل العلم قالوا يسمى في اليوم السابع واستندوا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغلام مرتهن بعقيقته يعني كأنه رهينة وأسير حتى يعق عنه قال تذبح عنه يوم السابع ويسمى هذا هو الشاهد ويسمى ويحلق رأسه هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
Et le troisième avis que les savants ont cité, c'est qu'on nomme l'enfant au bout du septième jour. Yani, l'enfant est nommé le septième jour. Et cela a été rapporté dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'enfant est lié à sa haqiqa. » On va le voir après. « L'enfant est lié à sa haqiqa. » L'enfant est dépendant, ou si je traduis, yani, c'est un gage. Il est un gage de sa haqiqa. Et donc cette haqiqa, on l'immole et on la sacrifie le septième jour. Et on nomme également l'enfant le septième jour, donc c'est toujours les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nomme l'enfant le septième jour, et c'est cette partie du hadith qui nous intéresse, et on lui rase les cheveux.
ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم استحباب التسمية ببعض الأسماء وكراهة التسمية ببعض الأسماء وقد أجمع أهل العلم على أنه يستحب اختيار الاسم الطيب للولد نعم.
Il a été donc parmi également les règles du nouveau-né, il y a le fait que dans l'islam, il y a des préférences pour certains noms et il y a des noms qui sont détestables. Et dans tous les cas, les ulama sont tous unanimes qu'il faut donner à l'enfant un nom qui est bon, un nom qui indique yani quelque chose de bien.
قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام لأنها فيها صدق وفيها عمل وفيها همة للعمل انظروا إلى الإسلام يدعو إلى ماذا؟ لا يدعو إلى الكسل بل يدعو إلى الأمل ويدعو إلى النشاط ويدعو إلى الحظ ويدعو إلى كل شيء طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأقبحها يعني أقبح الأسماء حرب ومرة يعني معانيها ليست جميلة نعم.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les noms les plus préférés et les noms qu'Allah jalla wa ala aime le plus sont Abdullah, serviteur d'Allah, et Abdurrahman, le serviteur du tout miséricordieux. Et les noms les plus véridiques sont Harith wa Hammam, que nous allons détailler juste après. Et les pires noms et les plus laids sont Harb et Murra, en raison des sens hideux qu'ils comportent.
ننبه على بعض الأحاديث الواردة ولا تصح وبعضها لا يصح وبعضها لا أصل له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشهور: أحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد، وهذا لا أصل له. أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أما لفظ ما عبد وحمد فلا أصل له. نعم
شيخنا، مقطع لم ترجمه، استدرك الآن إن شاء الله.
طيب،
donc je disais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleurs noms qui sont aimés auprès d'Allah c'est Abdullah et Abdurrahman, et les noms les plus véridiques sont Harith wa Hammam. Harith, il comporte le sens du travail, de la labeur, et Hammam, c'est, il comprend le sens des soucis et de la préoccupation et le fait d'être soucieux. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit ces noms là ce sont les noms les plus véridiques. Et Harb et Murra sont des noms qui sont les et i2, ce sont les plus les pour ceux qui comprennent comme sens, car ça indique la guerre et quelque chose de amer. Et Cheikh ici informe et met l'accent sur une chose importante. Il y a des hadiths qui ont été rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont faibles et qui n'ont même pas même d'origine. Et parmi eux, il y a un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit أحب الأسماء إلى الله عز وجل ما عبد وحمد. Donc les noms les plus élevés auprès d'Allah seraient les noms où on y trouve l'adoration et la louange.
وكذلك حديث قد ضعفه الشيخ الألباني في الأدب المفرد تسموا بأسماء الأنبياء، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أمرا طيبا وأمرا يدعو إلى الاقتداء بالأنبياء، وأمر شيء طيب أن تسمي أبنائك على أسماء الأنبياء، ولكن هذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
Également parmi les hadiths faibles qui ont été attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: appelez vos enfants avec les noms des prophètes. Cheikh nous dit ce hadith est faible, même si son sens est c'est bien d'appeler ses enfants avec des noms de prophètes, mais le hadith est faible.
من السنة كذلك يختص بالتسمية تصغير اسم الصبي الصغير والفتاة الجارية الصغيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنس، أنس ابن مالك كان يصغر اسمه، يقول يا أنيس، يصغر الاسم. وكذلك كان يقول لزينب بنت أم سلمة يا زوينب، هي زينب اسمها، يا زوينب. هذا التصغير جميل، ولكن لا يصغر بأسماء تدعو إلى التفاهة: زوزو، سيس، سي بي. والله صحيح، بعض الأسماء لا معنى لها، لا تصغير لها. سوسو، رجل كبير ينادى سوسو، ينفع. صحيح والله. طيب اسأل ما اسمه؟ اسمه إسحاق. إسحاق أصبح سوسو ولكن حتى التصغير إيتي بشيء طيب، أنيس، زوينب، يدعو إلى شيء طيب، ولكن تصغر حتى لا يبقى شيء في الاسم، يبقى فقط حرف واحد، لابد أن يدعى إلى فضائل، إلى شيء طيب. نعم.
Et donc parmi également les choses qui concernent le fait de nommer un enfant, ou plutôt qui concernent le fait d'appeler quelqu'un par son nom, on a al-tasghir. Al-tasghir en arabe, c'est ce qu'on pourrait traduire par le diminutif. Al-ilmu lillah, est-ce que cette chose, est-ce qu'on a un comparatif en français? Mais la chose la plus proche qu'on pourrait, avec laquelle on pourrait comparer al-tasghir en arabe et en français, c'est les diminutifs qu'on emploie pour appeler quelqu'un comme Cheikh Hafidhullah, qui vient de donner un exemple. Mathalan, si quelqu'un s'appelait Ishaq, on l'appelle Soussou, mathalan. Ou mathalan, ceux qui s'appellent Sofiane, ils l'appellent Soussou, etc. Parmi les diminutifs qu'on essaye de donner à un enfant par tendresse et par affection, pour, par amour envers cet enfant. En arabe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait les jeunes garçons et les jeunes filles par des noms attendrissants, par at-tasghir, donc le fait de donner un diminutif. Par exemple, Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait Unais, et Zainab radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait Zuwainab. Et donc ça, on trouve dans ce diminutif quelque chose de beau, quelque chose de noble. Et Cheikh nous dit, on doit s'écarter des diminutifs qui n'ont pas de sens et qui plus est, sont pires, ou plutôt renvoie à un sens, soit qui n'a pas de sens, ou soit renvoie à un sens, ou plutôt cache le nom de la personne. La personne, elle s'appelle Ishaq, donc c'est un nom noble. Et on vient, on l'appelle Soussou. Donc, il convient de faire ça avec les enfants et de trouver des diminutifs qui ont un sens noble.
من السنة تكنية الصغار الكنية يعني يسبقها بأبو وأم من السنة تكنية الصغار يقول أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير صغير يقول له بالكنية يا أبا عمير ما فعل النغير نوع من أنواع الطيور يسأله النبي صلى الله عليه وسلم إذن من السنة أيضا تكني الصغار أحدهم اسمه محمد تقول له يا أبا بكر يا أبا عمرو يا أبا عثمان وهكذا نعم
Et donc parmi les sunan, les recommandations, c'est le fait d'appeler les enfants par Al-Kunya. Al-Kunya en arabe, c'est le fait d'appeler une personne en le précédant de Abu, donc père, ou bien Akhu, frère, ou bien Ibn, fils, d'accord, comme Abu Bakr, etc. parmi les noms. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été rapporté dans un hadith de Anas qui disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous et il se mélangeait à nous. Jusqu'au point où il disait à un petit frère à moi, donc un enfant qui était très jeune, il lui disait « Oh Abu Umayr, qu'est-il advenu à ton petit oiseau ?» Donc le prophète alayhi salatu wasalam s'amusait avec cet enfant, il lui disait « Oh Abu Umayr ». Il l'appelait Abu Umayr, père de Umayr, alors que c'est un enfant, il n'y a pas d'enfant lui. Mais c'est par affection, par amour et par tendresse.
كذلك من الأحكام المتعلقة بالمولود وهو تعويذ المولود من الشيطان والعين والاستعاذة هو الالتجاء والاعتصام بالله عز وجل من شر كل ذي شر فأنت تعوذ المولود من شرور الشيطان ومن شرور العين نعم
Parmi également ce qui est recommandé concernant les règles du nouveau-né, il y a le fait de demander la protection à Allah Jalla wa Ala pour cet enfant. Le fait de demander à Allah Jalla wa Ala de protéger cet enfant. Et Cheikh nous dit donc, c'est le fait de demander na'am, c'est le fait de demander à Allah Jalla wa Ala tout simplement la protection na'am pour cet enfant, contre tout mal qui existe.
يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بقوله أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة كل شيطان شيطان الإنس وشيطان الجن من كل شيطان وهامة الهامة الدواب دوات السم قال ومن كل عين لامة الإصابة بالعين كثير من الناس لا يبلغ يصيب الناس بالعين ويقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق أباهما يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق نعم
D'après un hadith de Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait sous la protection d'Allah al-Hassan wa al-Hussein et il disait sallallahu alayhi wa sallam u'idukuma bi kalimatillahi tamma, donc je vous mets sous la protection d'Allah à travers ses paroles parfaites. Je vous mets sous la protection d'Allah à travers ses paroles parfaites contre tout démon qui soit les démons humains ou les démons djinns, parmi les djinns, et contre tout animal vénéneux, contre tout animal qui contient du poison, et également contre le mauvais œil. Et il disait également, sallallahu alayhi wa sallam, votre père, en parlant de Ibrahim alayhi salam, votre père mettait sous la protection d'Allah à travers cette formule de demande de protection, il demandait à la protection d'Allah pour son fils Ismaïl. إسحاق سيدفيس إسماعيل إسحاق
من المسائل المتعلقة بالتعويذ للأبناء وللمواليد هل يلزم في هذا التعويذ أن يضع الأب أو الأم يده على المولود لا يشترط ذلك ولا يلزم، وإن كان الأفضل، ولكن قد يكون المولود ليس عندك في البيت، قد يحصل طلاق بين الرجل والمرأة والمولود عند الزوجة، فأنت تدعو الله عز وجل أعيدك يا ابني من كذا وكذا، فلا يلزم وضع اليد، وإن كان هو الأفضل إذا كان لديه. ولكن لو كنت في بلد وابنك في بلد آخر فيجوز أن تعوذ ولدك ولو كان بعيدا عنك. وفي ذلك يعني استفتي الشيخ صالح الفوزان وأجاب بهذه الإجابة. نعم.
Parmi également les questions qui se posent, est-ce qu'il est une condition lorsque je demande protection à Allah Jalla wa Ala pour mon enfant de poser ma main sur mon enfant? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est une condition pour que la protection l'atteigne? Cheikh nous dit pas du tout. Même si c'est mieux lorsqu'on demande protection à Allah Jalla wa Ala de mettre la main sur son enfant, mais ce n'est pas une condition et on peut tout à fait le faire de là où on est. Il se peut que certains parents soient divorcés et que le père est à un endroit et la mère avec ses enfants à un autre endroit ou l'inverse, et il est tout à fait possible de demander protection d'Allah Jalla wa Ala pour cet enfant, même si c'est le mieux. Donc je répète que c'est de poser sa main. Et le Cheikh Fawzan Hafidhahullah a été questionné à ce sujet et c'est avec ce avec quoi il a répondu.
من المسائل المتعلقة بالمولود والأحكام المتعلقة به العقيقة عنه، والعقيقة هي ما يذبح عن المولود وحكمها سنة مؤكدة. نعم.
Parmi également les règles du nouveau-né, il y a العقيقة. العقيقة, qu'est-ce que c'est? C'est la bête que l'on sacrifie et qu'on immole à l'occasion de la naissance de ce nouveau-né. Et l'aqiqa, son jugement en islam, c'est que c'est une sunna très recommandée.
وقت العقيقة السنة أن تذبح يوم السابع فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، والحديث في صحيح الجامع، قال العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشر أو لإحدى وعشرين. هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
Donc la sunna, ce qui est recommandé, c'est donc avant ça la question c'est quand dois-je immoler et sacrifier cette aqiqa, cette bête. Ici, Cheikh nous dit la sunna, donc ce qui est recommandé, c'est de le faire le septième jour. Et si il n'a pas été possible de le faire le septième jour, alors à ce moment-là, le quatorzième jour. Et si le quatorzième jour, il n'a pas été possible non plus, de le faire le vingt-et-unième jour. Et c'est ce qui a été rapporté authentiquement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
يجوز ذبح العقيقة في أي يوم؟ الثاني، الثالث، الخامس، التاسع، الأربعين، الخمس، هو جائز. ولكن السنة من أراد تطبيقها فهي في هذه الأيام. فائدة العقيقة هي حرز للمولود من الشيطان بعد ولادته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المولود مرهون بعقيقته. نعم.
إذن il est bien sûr permis d'immoler cette aqiqa à n'importe quel moment, le premier jour, le dixième jour, le quarantième jour, mais les jours qu'on vient de citer, le 7, 14 et 21, ça c'est les meilleurs moments, car c'est ce qui a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quel est l'intérêt d'immoler cette aqiqa? C'est afin de protéger l'enfant contre les nuisances de Shaytan, car comme on l'a vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque nouveau-né est lié, ou plutôt est dépendant de sa aqiqa.
ما هو قدر العقيقة؟ يعني كم يذبح؟ يذبح عن الغلام يعني الذكر إذا ولد شاتان، وعن الجارية شاة واحدة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام شاتين وعن الجارية شاة واحدة. نعم.
Donc quel est le nombre de bêtes que je dois sacrifier lors de l'aqiqah, yani combien de bêtes je dois sacrifier à l'occasion de la naissance de mon enfant. Cheikh nous dit, pour un garçon, on immole 2 bêtes. Et pour une fille, on immole une seule bête. Et la bête, c'est yani, soit un mouton ou soit une brebis, yani, parmi les ovins et les caprins. Yani, les ovins et les caprins, c'est les moutons, et l'autre côté, c'est les chèvres. Et il a été rapporté dans un hadith par Aïcha radiallahu anha, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'immoler 2 brebis pour l'occasion d'un garçon et une seule, ou plutôt un mouton, une brebis, peu importe, à l'occasion d'un garçon et une seule à l'occasion d'une fille.
هل يجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فإن لم يجد الإنسان إلا شاة واحدة أجزأت وحصل بها المقصود، لكن إذا كان الله قد أغناه فالاثنتان أفضل. بعض الناس يسأل يقول: ليس لدي مال إلا لشاة واحدة، ورزقني الله عز وجل بمولود ذكر، فإنه يجزئ إن ذبح شاة واحدة. نعم
إذا أغناه الله عز وجل في هذا الوقت أو بعدين؟
في هذا الوقت، بعد ذلك خلاص انتهى، بما أنه ذبح يكفيه ذلك.
Donc, est-il permis pour celui qui est en difficulté financière, par exemple, de n'immoler qu'une seule bête pour un garçon? Donc, comme on a dit, pour un garçon, on immole 2 moutons. Est-ce qu'il est permis pour quelqu'un qui est dans la difficulté de n'immoler qu'une seule bête? Naam, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit oui, il est tout à fait permis pour celui qui est dans la difficulté d'immoler une seule bête, même si il est beaucoup mieux pour celui à qui Allah Jalla wa'ala a élargi de ses faveurs et l'a enrichi de faire 2 bêtes.
طيب سؤال ونريد منكم الإجابة.
Donc ici Cheikh va poser une question.
هل يعق الكبير عن نفسه إذا لم يعق عنه؟ وما الدليل؟ أهم شيء الدليل. نعم لا، هذا سهل، أنا أجلس واحد يقول نعم واحد يقول لا، خلاص انتهينا. ما الدليل؟ دليل ها.
Donc je traduis la question.
إذا ما أجبت تعطيني جائزة. ما يصير أنا كله صحيح ولا شيخ مصطفى. لا، إذا لم يجب هو يعطيني جائزة.
طيب. Donc je traduis la question. Cheikh demande, est-ce que il est permis pour une personne adulte qui sait que sa aqiqa, donc l'immolation de cette bête, n'a pas été faite lors de sa naissance, est-ce qu'il est permis pour lui, une fois adulte, de faire sa propre aqiqa pour lui-même? Et Cheikh nous dit, la plus importante des choses que je vous demande, c'est la preuve.
Aïcha
الحديث الذي قبل قليل يعني يعق عن نفسه ولا لا يعق؟
لا يعق،
لا خطأ، لأنه هذا قياس صح، قد يستدل به لا بأس، ولكن نريد دليل صريح. تفضل شيق
ها، عرفتها. سلم أمر بالعقيقة ولم اختص الوقت.
لا، تفضل يا شيخ. إبراهيم عق عن نفسه ولا ختن نفسه؟ ها، إذا راجعوا قد أكون أنا مخطئ. ابحثوا الآن في الحديث بالبخاري فيما أذكره أنه ختن نفسه وهو ابن 80 سنة، وجاء في الرواية بالقدوم وبالقدوم بالتشديد و التخفيف. راجعها في إن كانت ثابتة لك الجائزة ولا ممتازة.
ما الفرق؟
إيش؟
القدوم
القدوم مدينة، والقدوم الآلة. ما عليه السؤال بعد ذلك. أي نعم، أي الآلة التي يضرب بها يحرث بها الأرض، فختن نفسه بنفسه. ها، تفضل يا شيخ. اي نعم، جزاك الله خير، هذا الذي نريده، جزاك الله خير. وانا غردت فيها قبل اسبوع تقريبا، قبل اسبوع، وكان عندي دروس ذكرت ذلك في السيرة النبوية، وكذلك في تويتر غردت فيها، قلت يعني والإنسان يستفيد، قلت والله قرأت اليوم فائدة جميلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه بعدما بعث نبيا صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ.
Donc la réponse que notre cher frère Hafidahullah a donné était la bonne réponse. Et c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir été envoyé comme prophète, a fait lui-même sa propre aqiqa.
Le hadith, حتى يستفيد الجميع عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث نبيا، أخرجه عبد الرزاق في المصنف وهو في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. كذلك ورد عن بعض السلف، الدليل الآن انتهينا، ورد عن بعض السلف رحمهم الله تعالى عن الحسن البصري قال إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلا. وعن ابن سيرين رحمه الله قال لو أعلم أنه لم يعق عني قال لعققت عن نفسي. والدليل هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
Donc la preuve de cela se trouve dans le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم rapporté par Anas ibn Malik رضي الله عنه qui rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait sa propre aqiqa, donc a immolé les bêtes pour sa propre personne sallallahu alayhi wa sallam une fois qu'il a été envoyé comme prophète. Et bien sûr cela a été rapporté également par certains pieux prédécesseurs parmi Tabi'in et autres comme Ibn Sirin qui disait si je savais qu'on n'avait jamais fait ma aqiqa je l'aurais fait moi-même. Et ça c'était Ibn Sirin. Et Hassan al-Basri rahimahullah disait également à quelqu'un si tu sais que ta aqiqa n'a pas été faite, alors tu peux la faire même si tu es un adulte.
المسألة التي تلي ذلك وهي متعلقة بالعقيقة حكم العقيقة عن الطفل والجنين الذي يسقط من بطن أمه، يعني لم يخرج كاملا إنما هو سقط من بطن أمه. نعم.
Donc on a une question ici qui se pose qui est dois-je faire cette aqiqa ou bien puis-je faire cette aqiqa pour un fœtus qui est mort, donc un enfant qui est né avant le terme, donc c'est toujours un fœtus et qui est né mort.
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إذا ولد المولود بعد تمام أربعة أشهر، بعد تمام أربعة أشهر في بطن أمه كمل أربعة أشهر، قال فإنه يعق عنه ويسمى أيضا كله سنة لأنه بعد أربعة أشهر تنفخ فيه الروح ويبعث يوم القيامة. انتهى كلامه. إذن لو اكتمل في بطن أمه أربعة أشهر فأكثر فإنه تنطبق عليه أحكام الأحياء من العقيقة والتسمية وما شابه ذلك. نعم.
On a questionné Cheikh Ibn Taymiyyah à ce sujet, rahimahullah ta'ala, et Cheikh rahimahullah a répondu que si l'enfant a complété dans le ventre de sa mère 4 mois lunaires complets, si l'enfant a complété dans le ventre de sa mère, donc s'est développé pendant 4 mois lunaires complets, alors après cela, peu importe, quoi qu'il arrive, l'enfant, il est possible de, pour les parents de faire l'aqiqa, donc on le nomme, on lui donne un nom, on lui fait sa aqiqa, car les anges sont venus insuffler l'âme au bout des 4 mois et il sera ressuscité comme tous les autres. Et donc Cheikh nous dit après 4 mois, toutes les règles qui sont liées aux êtres humains vivants se répercutent sur ce fœtus, car après 4 mois, l'âme lui est insufflée.
المسألة التي تلي ذلك ما يقال عند ذبح العقيقة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البيهقي وحسنه النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع عن عائشة قالت عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وقال قولوا بسم الله والله أكبر اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان، هذا من السنة، من تركه لا شيء عليه، أهم شيء يسمي على الذبيحة. وأما الذكر هذا فهو سنة، وقد حسن الحديث النووي في المجموع. نعم.
Que dois-je dire lors de l'immolation du sacrifice? Que dois-je dire? Il a été rapporté dans un hadith authentifié par Nawawi et d'autres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a immolé l'aqiqa pour Al-Hassan ou Al-Hussein, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: Dites Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma laka wa ilayk, hadihi aqiqatu fulam. Donc, Bismillah, le cheikh nous dit Bismillah, c'est la plus importante des choses. Sinon, le dhikr qu'on vient de dire, yani cette formulation, c'est une sunnah. Celui qui ne l'a pas dit, yani c'est pas grave. Mais le plus important, c'est de dire Bismillah. Donc, Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma, ceci provient de toi, ou bien est pour toi, et vers toi. Ceci est la haqiqa de un tel.
كذلك ورد عن بعض السلف أن من السنة عدم كسر عظام العقيقة، إنما تؤخذ جدولا، يعني يكسر أو لا يكسر العظام، إنما يقص من المفاصل. ورد عن عائشة، وبعض أهل العلم ضعف ذلك عن عائشة، ولكن المشهور من كلام أهل العلم أنه يؤخذ بذلك. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: السنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شات، تطبخ جدولا لا يكسر لها عظم. إذن من المفاصل تقطع ولا تكسر العظم، هذا من السنة، وإن كسر لا بأس في ذلك. استنبط بعض أهل العلم بعض الحكم من عدم كسر عظام العقيقة. بعضهم قال: هو تفاؤل بألا تنكسر عظام المولود. وبعض أهل العلم قال يعني من الحكمة في ذلك أنها تكون العطية فيها جزلة، يعني إذا أردت أن تهدي الفقراء أو تهدي الجيران يكون اللحم كثيرا، يعني لا يقطع العظم فيكون اللحم قليلا، يكون العظم كبيرا وعليه اللحم كثير حتى تعطي الآخرين. نعم.
Parmi ce qui a été rapporté concernant les jugements de Al-Aqiqa, c'est le fait de ne pas casser les os de la bête. Une fois que la bête elle est morte et qu'elle a été dépecée, etc., il y a ni de ne pas casser les os. Ça veut dire que lorsque l'on coupe la viande, on la coupe au niveau des articulations et non pas en plein milieu là où il y a les os. Ça a été rapporté par مثلاً, Aisha radiallahu anha, qui a dit: la sunna, donc ce qui est recommandé, c'est d'immoler deux bêtes pour un garçon et une bête pour une fille. Et cette bête se cuit et se cuisine par membre. Ça veut dire qu'on ne casse pas les os. On coupe un membre au niveau des articulations, elle se cuisine ainsi, donc sans casser les os. Et cela a été rapporté donc par des salafs. Et Cheikh nous dit, certains ulama, certains savants ont tiré donc de ça certains points, à savoir pourquoi cela est recommandé. Certains ont dit c'est par bon espoir et par optimisme envers Allah Jalla wa Ala pour que l'enfant yani vive sain et en bonne santé, etc., et également pour que les dons, car ensuite la aqiqa yani il est aussi recommandé d'en donner pour que les dons soient généreux, pour qu'on ne donne pas des petits bouts de viande mais que ce soit des bouts bien généreux.
المسألة التي تلي ذلك: كيف نوزع لحم العقيقة؟
La question suivante: comment distribuer cette aqiqa, comment distribuer la viande?
يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: صاحبها مخير، إن شاء وزعها لحما بين الأقارب والأصحاب والفقراء، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء. هذه هي العقيقة المشروعة، وهي سنة مؤكدة، ومن تركها فلا إثم عليه. نعم.
شيخ بن باز رحمه الله a été questionné à ce sujet. Il a dit: on a le choix. يعني le choix est donné aux musulmans de comment distribuer sa aqiqa. S'il veut, il peut tout simplement distribuer la viande à ses proches, à ses voisins, aux pauvres, de manière fraîche, sans avoir été cuit au préalable, quoi que ce soit, de donner directement les morceaux de viande. Et s'il le veut, il peut également faire un repas avec cette viande et inviter ses proches, ses voisins et les pauvres. Et Cheikh nous dit, ceci est une sunna mu'akkada, donc c'est une sunna, une recommandation forte, qu'il est bien de faire, et celui qui l'a délaissé n'a rien, inshallah ta'ala.
المسألة التي تلي ذلك وهو حلق رأس المولود يوم السابع والتصدق بوزنه فضة، وهذا الحلق خاص بالذكور دون الإناث، حلق رأس المولود الذكر ثم يوزن هذا الشعر القليل جدا قد يكون غرام واحد ويتصدق بوزنه فضة. نعم.
La question suivante, c'est donc concernant les règles du nouveau-né, c'est la question qui concerne le fait de raser les cheveux du nouveau-né garçon, car c'est une question qui est spécifique pour les garçons et non pas pour les petites filles. Donc de raser les cheveux du bébé, donc garçon, et de donner l'équivalent de leur poids en or ou en argent. Et donc c'est vraiment minime. Il se peut que ça pèse même pas un gramme. Classe. Donc, Cheikh va aborder cette question.
ورد عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها لما ولدت الحسن: احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين. وجاء في حديث آخر: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. يعني في يوم السابع السنة يحلق الرأس وهذا الشعر يوزن ويتصدق بوزنه فضة. نعم.
Il a été rapporté dans un hadith d'après Abu Rafi' رضي الله عنه où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Fatima le jour où elle a enfanté de Al-Hassan. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: coupe-lui ses cheveux et donne en aumône l'équivalent du poids de ses cheveux en argent aux pauvres. Et dans un autre hadith, donc qu'on a rapporté tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'enfant, le nouveau-né, est lié à sa aqiqa et le septième jour, elle est immolée, donc elle est sacrifiée le septième jour. On le nomme également ce septième jour et on lui rase les cheveux. Et ce que j'avais oublié de traduire tout à l'heure, c'est que ceci se fait bien sûr le septième jour.
وَنُحَذِّرُكُمْ يَا مَنْ لَا تَعْرِفُونَ كَيْفَ تَحْلِقُونَ. لا تذهبون تشترون هذا جلت من بقالة سوبر ماركت ثم بعد ذلك كله دم مسكين سبع أيام كله دم لا تعرف تحلق لا تفعل. هذا خطير جدا. الطفل سبعة أيام رأسه طريد، تريد أن تحلق قد تؤذيه، قد تصيب عرق ولا تعرف كيف تداويه. ولذلك هناك فائدة عظيمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يقول: حلق رأس الغلام الذكر سنة، جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحلق ويتصدق بوزنه ورقا يعني فضة، قال لكن بشرط. والشيخ مجرب، الظاهر عندهم أطفال يمكن كله دم، قال: لكن بشرط ألا يكون أن يكون هناك حالق حاذق لا يجرح الرأس ولا يحصل فيه مضرة للطفل، فإن لم يوجد فأرى ألا يحلق. ما تعرف؟ لا يوجد واحد يعرف الحلاقة، يقول الشيخ ألا يحلق. طيب ماذا يفعل؟ يريد أن يطبق السنة؟ قال: وأن يتصدق بشيء يقارب وزن شعره من الفضة، تقريبا لا تحلق الرأس، تقريبا جرام واحد جرامان من الفضة تقريبا هذا الشعر الذي على الرأس، تصدق من غير حلق حتى لا تصيب الطفل الصغير بأي ضرر. نعم.
Ici, Cheikh met en garde contre quelque chose qui est très important. Il nous dit, ne va pas, si tu n'as pas l'expérience et si tu ne sais pas raser la tête de ton enfant, ne va pas prendre une lame ginette et commencer à raser la tête de ton enfant. Un enfant qui a 7 jours, sa tête est encore molle. Ses zones ne sont pas encore développées. Il est très fragile. Il se peut que tu touches avec la lame une veine et dont tu ne sauras pas quoi faire juste après. Donc, pour éviter de blesser l'enfant et de le toucher et de lui nuire, alors Cheikh met cette condition. Il faut que quelqu'un d'expérimenté qui sache le faire vienne le faire. Et ça, c'est ce que disait Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Il disait rahimahullah, le fait de raser la tête est une sunnah, bien évidemment. Et l'enfant le 7e jour, il est conseillé de lui raser la tête et de donner en moins l'équivalent de son poids en or ou en argent. À condition de trouver quelqu'un d'expérimenté qui est capable de le faire sans blesser l'enfant et sans nuire à l'enfant, et ainsi il peut le faire avec assurance. Et maintenant, question, si quelqu'un ne trouve personne et a peur de le faire lui-même car il ne sait pas le faire, Cheikh nous dit, il est toujours possible pour celui qui veut mettre en pratique cette sunna de donner l'équivalent du poids de ses cheveux qu'on aura estimé. Cheikh nous dit 1 gramme, 2 grammes, et de la donner en aumône sans pour autant toucher à la tête de l'enfant.
Min as-sunan al-mahjura tawtikhu رأس المولود بعد حلقه، بعد أن يحلق الرأس، تلطيخ رأسه بالزعفران.
Parmi les sunan, donc parmi les recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été délaissées de nos jours, c'est le fait de mettre du safran, d'enduire la tête de l'enfant avec du safran après lui avoir rasé la tête.
قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانوا في الجاهلية قبل الإسلام إذا عقوا عن الصبي، كانت العقيقة موجودة في الجاهلية، خضبوا قطنة بدم العقيقة، ذبحوا العقيقة قطنة صغيرة يجعلون من دم العقيقة، فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه بالدم، لطخوا الرأس بدم العقيقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا مكان الدم خلوقا، يعني نوع من أنواع الطيب. فسيأتي بعد قليل النص على الزعفران، وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة. عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ولد ذبح شاة ولطخ رأسه بدم، أتوا بالقطنة من دم العقيقة ولطخوا دم رأس هذا الغلام بدم العقيقة. قال فلما جاء الإسلام كنا نذبح الشاة يوم السابع العقيقة، قال ونحلق رأسه ونلطخه بالزعفران لا بدم العقيقة. نعم
شيخنا،
نوع من أنواع الطيب يطلق على الزعفران وغيره. في الحديث الآخر جاء التنصيص على الزعفران حتى يقيد المطلق.
Donc parmi les sunan qui ont été délaissées, donc c'est le fait de maculer, يعني le fait de mettre du safran ou un autre type de parfum يعني qui s'appelle al-khalouq sur la tête de l'enfant. Il a été rapporté d'après Aïcha radiallahu anha, qui rapporte que dans la période pré-islamique, avant l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient cette pratique qui est l'aqiqa. Donc ils faisaient l'aqiqa lors de la naissance d'un nouveau-né. Et après avoir rasé la tête de l'enfant, ils prenaient un coton et le maculaient de sang de la bête qui a été immolée et sacrifiée, et en mettait sur la tête de l'enfant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, après l'islam, remplacez cette pratique qui est le fait de mettre du sang par le fait de mettre soit dans une version du safran ou soit dans une version al-khalour qui a une sorte de parfum, une sorte de chose qui a une bonne odeur.
المسألة التي تلي ذلك وهي ختان المولود يختن في اليوم السابع. يقول جابر رضي الله تعالى عنه عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام. والختان هو القطعة التي تكون على الحشفة وهو معروف في ذكر الرجل. وحكم الختان هو واجب على الرجال على الذكور سنة في حق النساء يعني ليس واجبا على النساء أما الذكور فيجب عليهم الختان لأنه يتبقى في هذه قطعة اللحم يتبقى شيء من النجاسة فيجب على الرجل أن يختتن وكما جاء معنا قبل قليل أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم أو بالقدوم. نعم.
Parmi donc les règles du nouveau-né, il y a la circoncision. La circoncision, son jugement donc c'est que c'est obligatoire pour les garçons et que c'est simplement une sunna pour les filles. Il a été rapporté d'après Jabir radiyallahu ta'ala anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié l'aqiqa pour al-Hassan ou al-Hussein le 7e jour. Et il les a également circoncis ce jour-là. Donc il les a également circoncis sallallahu alayhi wa sallam le 7e jour. Et donc la circoncision, qui est un acte bien connu, yani, qui est le fait d'enlever un bout de peau yani, des parties du jeune enfant, est un acte obligatoire. Et comme on a dit précédemment lors d'une réponse qu'un frère a donné, Ibrahim alayhi salam s'est circoncis lui-même alors qu'il avait 80 ans avec ce qui pourrait ressembler à une fosse.
طيب وإلى هنا نختم ولكن نختم بسؤال حتى نعطيكم الجائزة ما هو الذكر الذي يقوله الرجل إذا أراد أن يأتي أهله؟
donc شيخ pose une question quelle est l'invocation
كاملا ينقص حرف تعطيني جائزة ما حد أعطاني جائزة ها تفضل شيخ ولكن في البداية هناك بسم الله أنت يا شيخ رفعت يدك ها وينك أنت إيش عيد
بسم الله أعدنا
اللهم ها اللهم أعدنا ولا وجنب الشيطان ما رزقته جزاك الله خير الله يحفظك تتشاركان الله يحفظك وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين موعدنا بإذن الله عز وجل الغد الساعة كم الغد الساعة 11:00 ودرس العصر يكون قبل العصر 4:30 بإذن الله عز وجل حفظكم الله.
Donc je traduis rapidement la question. Cheikh a posé la question quel est le dhikr, yani quel est le rappel ou l'invocation que l'on fait avant les rapports. Alhamdulillah, le frère a répondu correctement. Bismillah, et Cheikh a donc clôturé cette assise en rappelant que demain le cours commence le matin à 11h et que celui de l'après-midi, comme je le rappelle, il a été décalé avant l'Asr à 4h30. Donc le premier cours du matin à 11h jusqu'à environ 13h et le second, celui de l'après-midi, sera à 4h30. Barakallahu fikum. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن ينفع بالشيخ وأن يرفع قدره في الدارين.